Toutes ces raisons font hésiter le malade à demander au Seigneur sa guérison, car, se dit-il, comment savoir si la maladie n'est pas plus salutaire à mon âme que la santé? Penser ainsi, c'est méconnaître ce qu'est la guérison divine et ses fruits. Cherchons à comprendre que si la guérison, par les voies ordinaires, risque parfois de faire lâcher la main de Dieu, la guérison divine au contraire, unit à lui plus étroitement. Il en résulte que de nos jours, aussi bien qu'au temps du ministère terrestre de Jésus-Christ, le croyant qui a été guéri pourra glorifier le Seigneur, bien mieux que celui qui reste malade. La maladie ne peut glorifier Dieu qu'autant qu'elle lui donne l'occasion de manifester sa puissance. Jean 9, 3, 11, 4. Le malade amené, par ses mots à glorifier Dieu, le fait pour ainsi dire par contrainte. S'il avait la santé et la liberté du choix, il est très possible que son cœur retournerait au monde. Dans ce cas, le Seigneur doit le retenir à l'écart, sa piété dépend de son état maladif. Voilà pourquoi le monde pense que la religion n'est guère bonne que dans les chambres de malades, auprès des lits de mort, et pour ceux qui n'ont pas à se mêler au mouvement et au bruit de la vie ordinaire. Pour être convaincu de l'efficace de la religion contre les tentations, il faut que le monde voie le croyant, en bonne santé, marcher avec calme et sainteté au milieu même de l'activité et du travail. Sans doute un grand nombre de malades ont glorifié Dieu par leur patience dans la souffrance, mais on le glorifie encore mieux en le servant, avec une santé sanctifiée par lui. Pourquoi donc, demande-t-on, ceux qui ont été guéris en réponse à la prière de la foi, glorifieraient-ils mieux le Seigneur que ceux qui l'ont été en usant des remèdes terrestres? Le voici, la guérison, par le moyen des remèdes, nous montre la puissance de Dieu dans la nature, mais ne nous met pas toujours en contact vivant et direct avec lui, tandis que la guérison divine est un acte venant de Dieu, sans autre intermédiaire que le Saint-Esprit. C'est donc ici le contact direct avec Dieu qui est l'essentiel, et c'est pour cela que l'examen de conscience et la confession des péchés doivent y préparer le malade. 1 Corinthiens 11, 30-32 Jacques 5, 15-16. Celui-ci est appelé à se consacrer tout de nouveau et tout entier au Seigneur. 1 Corinthiens 6, 13-19. Tout ici dépend de l'acte de foi qui saisit la promesse du Seigneur en se donnant à lui et qui ne doute pas que le Seigneur ne prenne aussitôt possession de ce qu'on lui consacre. Ceci explique pourquoi la prolongation de la santé reçue dépend de la sanctification de la vie, de l'obéissance à chercher toujours le bon plaisir du divin guérisseur. Exode 15, 26. La santé obtenue dans ces conditions-là assure des grâces spirituelles bien plus grandes que le retour de la santé par les voies ordinaires. Quand le Seigneur guérit le corps, c'est pour en prendre possession, pour s'en faire un temple qu'il puisse habiter. La joie qui remplit alors l'âme ne saurait se décrire. Ce n'est pas seulement la joie d'être guéri, c'est la joie mêlée d'humilité et de saint enthousiasme qui réalise l'attouchement du Seigneur et qui reçoit de lui une vie nouvelle. Dans l'effusion de sa joie, le malade guéri exalte le Seigneur, il le glorifie par ses paroles et ses actes, et toute sa vie est consacrée au service de Dieu. Il est évident que ces fruits de la guérison ne sont pas les mêmes pour tous et que parfois il y a des parétrogrades. La vie du malade guéri est solidaire de la vie de ceux qui l'entourent. Leurs doutes, leurs inconséquences pourront plus tard le faire dévier, néanmoins, c'est presque toujours ainsi qu'il débute dans sa vie nouvelle. Chaque jour, il découvre et reconnaît mieux que sa vie est celle du Seigneur, il entre en communion plus intime et plus joyeuse avec lui, il apprend à vivre dans la dépendance habituelle de Jésus, et il reçoit de lui la force qui résulte d'une consécration plus complète. Oh ! Que ne deviendra pas l'Église quand elle vivra de cette foi-là, quand chaque malade verra dans la maladie un appel à être sanctifié, à attendre du Seigneur la manifestation de sa présence, quand les guérisons se multiplieront, produisant tout autant de témoins de la puissance de Dieu, tous prêts à s'écrier avec le psalmiste « Mon âme, bénis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies ». 30e jour. La prière persévérante. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Luc 18, 1-8. La nécessité de prier avec persévérance est le secret de toute vie spirituelle. Quel bonheur de pouvoir demander à Dieu telle ou telle grâce jusqu'à ce qu'il la donne, et de savoir avec certitude qu'il veut exaucer la prière. Mais quel mystère aussi pour nous que l'appel à persévérer dans la prière, à heurter à la porte du Seigneur avec foi, à lui rappeler ses promesses, à ne pas nous lasser de le faire jusqu'à ce qu'il nous accorde notre demande. L'assurance que notre prière doit obtenir du Seigneur ce que sans elle il ne donnerait pas, n'est-elle pas la preuve évidente que l'homme a été créé à l'image de Dieu, qu'il est son ami, qu'il est ouvrier avec lui, et que les croyants qui forment ensemble le corps de Christ participent ainsi à son œuvre d'intercession? Car c'est à cette intercession de Christ que le Père répond, qu'il accorde ses grâces divines. Plus d'une fois la Bible nous explique la nécessité de la prière incessante. Elle a plusieurs raisons d'être, et tout d'abord elle est motivée par la justice de Dieu. Dieu a déclaré que le péché doit porter sa peine, le péché a donc des droits sur un monde qu'il a cueilli et lui reste asservi. Lorsque l'enfant de Dieu veut sortir de cet ordre de choses, il faut que la justice de Dieu y consente, il faut donc le temps voulu pour faire valoir devant le tribunal de Dieu les privilèges que Christ a acquis aux croyants. En outre, la prière persévérante est motivée par l'opposition de Satan, qui cherche toujours à empêcher l'exaucement de la prière. Daniel 10, 12,13, le seul moyen capable de vaincre cet ennemi invisible, c'est la foi. Ferme et fondée sur la promesse de Dieu, la foi refuse de céder et continue à prier, à attendre l'exaucement, lors même qu'il tarde à venir, sachant qu'elle finira par avoir la victoire. Éphésiens 6, 12,18, enfin c'est pour nous-mêmes que la persévérance à prier est nécessaire. Le retard apporté à l'exaucement est destiné à éprouver notre foi et à l'affermir, il doit développer en nous la volonté inébranlable, qui ne lâche plus les promesses de Dieu, mais qui renonce à ses propres appréciations, pour ne compter que sur Dieu. C'est alors que Dieu, voyant ce qu'est notre foi, nous trouve prêts à recevoir ses grâces et nous les accorde. Il nous fera promptement justice lors même qu'il tarde. Oui, malgré tous les délais nécessaires, il ne nous fera pas attendre un instant de trop, si nous crions à lui jour et nuit, il nous fera promptement justice. Cette persévérance à prier nous devient facile dès que nous comprenons bien ce qu'est la foi. Jésus nous l'enseigne par ses mots, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22, quand la parole de Dieu nous autorise à demander quelque chose, nous devons croire que nous le recevons aussitôt. Dieu nous le donne, nous le savons par la foi, et nous pouvons dire que dans le ciel nous l'avons reçu, quoique ce ne soit que plus tard seulement que nous devions en réaliser ici-bas les effets. C'est avant d'avoir vu, éprouvé quoi que ce soit, que la foi se réjouit d'avoir reçu, et qu'elle persévère à prier à attendre jusqu'à ce que la réponse soit manifeste. C'est donc précisément pour en venir à compter sur l'exaucement, qu'il est parfois utile de continuer à prier, et qu'il sera bon, après avoir cru à l'exaucement, de persévérer encore jusqu'à ce que celui-ci devienne un fait acquis. Tout ceci est d'une grande importance pour obtenir la guérison divine. Parfois, il est vrai, la guérison est immédiate et complète, mais il peut arriver aussi qu'elle se fasse attendre, même dans le cas où le malade aurait pu la demander avec foi. Parfois aussi, les premiers symptômes de guérison se montrent aussitôt, mais ensuite les progrès sont lents et entravés par des moments d'arrêt ou des retours du mal. Dans l'un et l'autre cas, il importe soit pour le malade, soit pour ceux qui prient avec lui, de croire à l'efficacité de la prière persévérante, bien qu'il ne puisse pas en expliquer le mystère. Ce que Dieu paraît d'abord refuser, il l'accorde plus tard à la prière de la cananéenne, à celle de la veuve, à celle de l'ami qui heurte à la porte à minuit. Matthieu 15, 22, Luc 18, 3, 11, 5, sans voir ni changement, ni réponse, la foi qui se fonde sur la parole de Dieu, et qui continue à prier avec importunité, finira par avoir la victoire. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, quand même il tarde à leur égard. Dieu sait donc tarder tout le temps nécessaire, et pourtant agir promptement sans attendre plus qu'il ne faut. Voilà les deux choses que doit aussi présenter notre foi. Avec une sainte promptitude, saisissons les grâces promises comme si nous les avions déjà reçues, avec patience attendant sans nous lasser l'exaucement qui tarde à venir. Cette foi-là s'attache à vivre en lui. C'est pour faire naître en nous cette foi-là que la maladie nous est envoyée et qu'ensuite la guérison nous est accordée, car plus que toute chose cette foi-là glorifie notre Dieu. 31e jour. Étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Acte 4, 29-31 nous serait-il permis, aujourd'hui de prier ainsi, de demander au Seigneur donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons. Examinons cette question. L'œuvre de Dieu ne présente-t-elle pas aujourd'hui tout autant de difficultés qu'alors, et les besoins ne sont-ils pas aussi pressants? Qu'on se représente les apôtres au milieu de Jérusalem et de son incrédulité, d'un côté les principaux du peuple et leurs menaces, de l'autre la foule aveuglée, refusant de croire au crucifié. À présent le monde n'est plus si ouvertement hostile à l'Église, parce qu'il ne la craint pas, mais ses paroles flatteuses sont plus redoutables encore que sa haine. La dissimulation est parfois pire que la violence. Un christianisme tout de vaine forme et qui dort dans son indifférence, n'est-il pas tout aussi peu accessible à la vérité qu'un judaïsme qui lui résiste ouvertement? Encore à présent, les serviteurs de Dieu ont besoin, pour annoncer sa parole, avec une pleine assurance, que la puissance de Dieu se manifeste au milieu d'eux d'une manière évidente. Aujourd'hui comme alors, le secours de Dieu n'est-il pas tout aussi nécessaire? Les apôtres savaient bien que ce n'était pas l'éloquence de leur prédication qui ferait triompher la vérité, mais qu'il fallait là le témoignage de l'Esprit manifestant sa présence par des miracles. Il fallait que le Dieu vivant étendît la main pour qu'il se fît des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de son Saint-Fils Jésus. Alors seulement ses serviteurs, joyeux et forts de sa présence, pourraient annoncer sa parole, avec l'assurance de la foi, et apprendre au monde à craindre son nom. Les promesses divines ne nous concernent-elles pas aussi? Les apôtres s'appuyaient sur ces mots du Seigneur, avant son ascension aller par tout le monde, et prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Marc 16:17-18. Ce commandement nous indique la vocation divine de l'Église, la promesse qui le suit nous montre quelles sont ses armes, et nous prouve que le Seigneur agit de concert avec elle. C'est parce que les apôtres comptaient sur cette promesse qu'ils priaient le Seigneur de leur accorder la preuve de sa présence. Le jour de la Pentecôte, ils avaient été remplis du Saint-Esprit, mais il leur fallait encore les signes surnaturels qu'opère sa puissance. La même promesse s'adresse également à nous, car l'ordre de prêcher l'Évangile ne saurait se détacher de la promesse de guérison divine qui l'accompagne. Nulle part dans la Bible, nous ne voyons que cette promesse ne fut pas aussi pour les âges futurs. En tout temps, le peuple de Dieu a grand besoin de savoir que le Seigneur est avec lui et d'en posséder la preuve irréfutable. Cette promesse est donc pour nous aussi, demandons-en l'accomplissement. Devons-nous compter sur la même grâce? Nous lisons dans les Actes qu'après avoir prié, les apôtres furent tous remplis du Saint-Esprit et qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple, et que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur s'augmentait de plus en plus. Acte 4:31-5:12-15. Quelle joie et quelle force nouvelle recevrait aujourd'hui le peuple de Dieu, si de nouveau le Seigneur étendait ainsi sa main. Que d'ouvriers fatigués et découragés s'affligent de ne voir guère de bénédictions sur leur travail? Comme leur foi reprendrait vie, si des signes de ce genre venaient leur prouver que Dieu est à l'œuvre avec eux? Ma indifférence serait amenée à réfléchir, plus d'un douteur à prendre confiance, et tout incrédule en serait réduit au silence. Et le pauvre païen? Comme il se réveillerait s'il voyait par des faits ce que les paroles ne peuvent lui faire saisir, s'il devait forcément reconnaître que le Dieu du chrétien est le Dieu vivant qui fait des prodiges, le Dieu d'amour qui bénit. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, Église du Seigneur. Quoi que tu aies perdu par ton infidélité la joie de voir s'allier à la prédication la main de l'Éternel étendue pour guérir, le Seigneur est prêt à t'accorder de nouveau cette grâce. Reconnais que c'est ton incrédulité qui t'en a privé longtemps, demande pardon et ne tarde plus à t'écrier « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel ». Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Ésaïe 51:9. Église du Seigneur, ne te lasse pas de prier jusqu'à ce que Dieu te réponde de son sanctuaire et manifeste sa gloire à son peuple. Comme ses premiers témoins, sois animé, toi aussi, du seul désir d'annoncer l'Évangile, avec une pleine assurance, de le prêcher à toute créature. Dieu répondra alors à ta requête en te remplissant du Saint-Esprit, et de nouveau il étendra sa main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de son Saint-Fils Jésus. Note. Extrait de la vie du pasteur Jean-Christophe Blumard. C'est d'en haut que doit nous venir le secours, mais par quel moyen? Hélas, les portes du ciel, jadis largement ouvertes, ne semblent-elles pas fermées aujourd'hui? On prie beaucoup, c'est vrai, néanmoins on ne voit guère de réponse à toutes ces prières. Sous la nouvelle alliance, c'est par le moyen de nos frères que Dieu nous communique ses grâces, se servant d'eux selon qu'il le juge bon. Ce n'est plus par des révélations ou de songes, c'est par la prédication, que l'évangile est annoncé, mais il faudrait encore, comme Christ l'avait institué, et que les ministres des grâces spirituelles fussent aussi les dispensateurs des autres grâces promises à l'Église. Il faudrait qu'ils continuassent ainsi l'œuvre des apôtres qui avaient reçu le don de guérison, aussi bien que celui de prédication. De nos jours, le monde chrétien a trop perdu de vue tout cela, aussi a-t-on cherché à remplacer par l'art de la médecine ce que les prédicateurs de l'Évangile ne pouvaient plus donner à l'Église, et souvent on voit les médecins traiter avec amour et persévérance les malades et les aliénés, tandis que les pasteurs ne savent leur dire que ces mots cités par l'apôtre « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps. Jacques 2, 16. Il en était tout autrement à l'origine du christianisme. La volonté de Dieu était alors que le ministre de la parole fût revêtu d'une puissance effective et divine? Oh! Pauvre chrétienté! Par ta faute, tu as vu s'éloigner de toi la puissance que Christ avait acquise à son Église par son sang. Note. Le pasteur Jean-Christophe Blumhard. Le pasteur Blumhard avait été accusé d'aller au-delà des attributs de son ministère en s'occupant de la guérison des malades. Dans sa défense, il expose que s'il l'a fait, c'est parce qu'il a vu là le devoir de répondre aux besoins de l'Église et il insiste sur l'efficace de la prière persévérante pour la guérison des malades. Après avoir cité l'exemple de la veuve qui importune le juge inique et de l'ami qui va frapper à la porte à minuit, il dit « Je n'ai fait là que ceux qui rentrent dans les fonctions d'un pasteur, car c'est d'après l'ordre donné par le Seigneur dans l'épître de Jacques que je me suis mis à prier avec foi. » Jacques 1, 6,7 sans compter sur moi et mes propres forces, sans me flatter d'avoir le don de guérison, plus que tout autre pasteur, je me suis mis à l'œuvre, comme ministre de l'Évangile, sachant que comme tel, j'avais le droit de prier. Toutefois j'ai vu que dans bien des cas les portes du ciel ne m'étaient pas largement ouvertes et découragé, j'ai été plus d'une fois tenté de tout abandonner, mais la vue de tant de malades sans secours ne me laissait pas de repos, et la parole du Seigneur demandée et l'on vous donnera Luc 11, 9,10 me revenait souvent à l'esprit. En outre, je me disais que si l'Église et ses pasteurs avaient perdu, par incrédulité, par désobéissance et négligence, la force nécessaire pour résister à la puissance de Satan, c'était sans doute dans la prévision de ces temps de disette que le Seigneur avait parlé de l'ami qui va frapper à la porte à minuit pour demander trois pains. Luc 11, 5-8 Quant à moi, je me sentais indigne d'aller dans les ténèbres de minuit me présenter à Dieu comme son ami et lui demander quelque chose pour tel ou tel membre de mon Église, et pourtant, comment les laisser sans secours? Je ne le pouvais pas non plus. Je continuais donc à aller frapper à sa porte selon que m'y autorisait la parabole ou comme on me l'a reproché, avec une arrogance spirituelle qui cherche à tenter Dieu. Quoi qu'on puisse en dire, il m'était impossible de laisser mon hôte sans prendre soin de lui. La parabole de la veuve et du juge inique me fut également très utile. Luc 18, 1-8 L'Église me paraissait être la veuve, et moi, ministre de l'Église, n'avais-je pas le droit d'élever la voix pour demander que justice lui fût faite de sa partie adverse et de persévérer à le demander avec l'insistance de la veuve, car le Seigneur ne me répondait pas toujours tout de suite? Et pourtant que lui demandais-je? Seulement trois pains, tout juste ce qu'il fallait à mon hôte? Le Seigneur finit par se tourner vers le mendiant intrépide. Il vint à son secours. Avais-je donc eu tort de le prier avec persévérance? Les deux paraboles dont je viens de parler ne sont-elles pas applicables à tel ou tel cas de notre temps, et le besoin n'était-il pas pressant? Et comment le Seigneur répondait-il à ma demande? Après avoir commencé par refuser, il ne me disait pas ensuite « Va-t'en ». Je porterai moi-même à ton hôte le nécessaire, je n'ai pas besoin de ton entremise. Non. C'était à moi, son ami, qu'il donnait la grâce demandée, pour que je la communiquasse à mon gré. J'allais donc distribuer les trois pains reçus, mais la provision n'était pas grande, et bientôt elle était épuisée, car il m'arrivait toujours de nouveaux hôtes. Ils avaient compris que j'avais, de la joie à prendre soin d'eux, à aller intercéder pour eux auprès de mon céleste ami, fût-ce même à minuit. De nouveau, j'obtenais ainsi ce qu'il me fallait et j'en avais de reste. Voilà ce que j'ai fait, et maintenant à qui la faute, si les malheureux ont pris le chemin de ma demeure? Fallait-il les renvoyer, leur dire avec dureté, pourquoi venir ici? Dans la ville, il y en a de plus riches que moi.